18h30 à Paris, c'est l'heure de retrouver Débat. Avec vous, Romain Ozoui. Bonsoir.
Merci Véronique, bonsoir à vous. On parle des coalitions politiques ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car l'éclatement de la coalition au pouvoir en Allemagne a fait beaucoup de bruit ce mercredi. Le chancelier Olaf Scholz a tenté de s'expliquer devant les députés du Bundestag. Il faut dire en Allemagne, la coalition est une norme politique depuis 1949. En effet, aucun parti n'a gouverné seul. Notre question ce soir, est-ce que les coalitions sont encore possibles dans le monde à l'image de l'échec allemand, à l'image de la France qui n'est pas parvenue, souvenez-vous, à former une coalition ces derniers mois. Est-ce que les antagonismes politiques sont-elles aujourd'hui, eh bien, qu'aucun compromis n'est possible? Dès lors, comment renouer le lien? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Pascal Joannin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Face à vous, Patrick Martin-Jeunier, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, auteur du livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Notre troisième invité en ligne avec nous, Paul Maurice, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Ben, je vais commencer avec vous, Paul Maurice, vu que vous êtes spécialiste de l'Allemagne, pour essayer de comprendre ce que signifie l'éclatement de cette coalition. On va rappeler que c'était une coalition qu'on surnommait « Feu tricolore ». Qui était au pouvoir en Allemagne. Elle réunissait les sociodémocrates du SPD, du chancelier donc Olaf Scholz, les écologistes et puis troisième force politique, les libéraux du FDP. Et patatras, la semaine dernière, Olaf Scholz a limogé le ministre libéral des Finances, Christian Lindner. Est-ce qu'on peut parler de la fin d'un modèle?
Alors non, parce que les coalitions, vous l'avez rappelé, sont le modèle en Allemagne et il est déjà arrivé, ça a été rare, mais il est déjà arrivé que des coalitions éclatent et que des partis quittent des coalitions. La dernière fois, c'était en 1982, quand les libéraux, déjà eux alliés des sociaux-démocrates, avaient retourné leur alliance vers les chrétiens-démocrates. Donc ce n'est pas la fin d'un modèle. Ce qui est intéressant, c'est que c'était la première fois, sauf si on compte les tout débuts de la République fédérale d'Allemagne avec des micro-partis, c'est la première fois qu'on avait une coalition avec trois partis. Et je pense que c'est ça qui est significatif, c'est que les coalitions traditionnelles allemandes qui regroupaient l'un ou l'autre des deux grands partis de rassemblement, comme on dit en allemand, les Volksparteien, et un petit parti d'appoint n'existent plus. Pourquoi ? Parce que ces grands partis qui faisaient à l'époque 40-45% ne font aujourd'hui plus que 25-30%, alors peut-être un peu plus, 32-33%. Et donc, ils vont avoir besoin de s'allier avec un autre parti qui sera aussi lui-même fort. Et c'est ce qui était arrivé sur toute la période, quasiment toute la période où Angela Merkel était à la chancellerie. Elle a gouverné trois fois sur les quatre en grande coalition, c'est-à-dire avec l'autre grand parti, avec les sociaux-démocrates. Donc on a un modèle qui est en transition, mais pas seulement depuis la semaine dernière, mais depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, ce qui repose la question de pourquoi des coalitions ? Pourquoi on est aussi obligé, deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on est obligé de former des coalitions avec trois partis? Parce qu'on a des nouveaux acteurs dans le jeu politique, notamment en Allemagne, mais c'est vrai dans toute l'Europe, qui est une extrême droite très puissante, très forte, qui aujourd'hui va empêcher les autres partis d'obtenir des scores qu'ils obtenaient auparavant. Et aujourd'hui, cette extrême droite en Allemagne, elle est créditée de 16 à 17%, c'est-à-dire plus que les sociaux-démocrates qui gouvernent le pays et qui sont à chancellerie avec Olaf Scholz.
Et ils sont dans les sondages annoncés comme la deuxième force politique d'ailleurs du pays, l'AFD évidemment. Patrick Martin-Jeunier, finalement ce que nous dit Paul Maurice, c'est que avec la fin du bipartisme, mais qu'on observe clairement pas qu'en Allemagne, est-ce que c'est ça la fin des coalitions? C'est qu'évidemment, il va y avoir de plus en plus de partis à réunir autour de la table et c'est plus compliqué que réunir une coalition avec deux partis.
Oui, effectivement, ça va être un peu plus compliqué, mais comme le disait Paul Maurice, effectivement, il y a en Allemagne une véritable culture de la coalition gouvernementale. Ça prend deux mois avant de faire une coalition en Allemagne. En France, nous n'avons pas cette culture. Nous sommes dans un régime politique exceptionnel où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président de la République lorsqu'il a sa majorité à sa disposition au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et donc, nous n'avons pas cette habitude de coalition. Ce qui explique aujourd'hui les l'échec en France d'une possible coalition sous la direction de Michel Barnier. Mais en Allemagne, au lendemain des élections qui vont avoir lieu le 23 février, la déclaration, la question de confiance va avoir lieu le 16 décembre, bien évidemment qu'ils sont obligés de faire une coalition.
Et donc une coalition avec l'extrême droite, si l'extrême droite
Non, absolument pas.
Elle est annoncée en deuxième position dans les sondages.
Il n'y aura pas de coalition avec l'extrême droite, avec l'AFD, qui est un parti néo-nazi, fasciste. Et donc, il n'y aura absolument pas. On l'a vu en Thuringe, on l'a vu en Saxe, où malgré les scores très importants de ce parti d'extrême droite, eh bien, ils ont été exclus. Donc, si cela est nécessaire, il y aura une grande coalition entre les sociodémocrates et la CDU-CSU, c'est-à-dire les démocrates chrétiens. Mais en tout cas, non, il y aura un véritable cordon sanitaire. Il est hors de question que l'extrême droite gouverne à Berlin. Personne ne le voudra.
Personne ne le voudra, mais les électeurs l'entendront ?
En Allemagne, il y a une culture du compromis. Hein, c'est-à-dire que les électeurs de gauche qui ont voté à gauche seront d'accord pour une grande coalition avec la CDU. Pourquoi ? Parce que c'est le compromis parlementaire. Il y a les Verts, n'oublions pas les Verts qui sont importants, n'oublions pas les libéraux. Et donc, à partir de là, il y a une majorité au Parlement et les Allemands sont tout à fait prêts à écouter la formation d'une coalition majoritaire. D'autant plus que l'extrême droite, elle est très puissante, mais surtout à l'est de l'Allemagne. Ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc les Allemands sont adultes en la matière, ils accepteront une coalition, ce qui ne veut pas dire que pour autant l'extrême droite n'aura pas des responsabilités au sein du Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand.
Pas de coalition possible avec l'extrême droite en Allemagne, Pascal Joannin, mais d'une certaine manière de moins en moins de coalitions possibles avec des forces politiques différentes, je dirais, aujourd'hui en Europe, selon vous. Est-ce que finalement la coalition allemande elle a éclaté parce que les libéraux ils peuvent pas gouverner aujourd'hui avec les sociodémocrates ? On rappelle que c'est parce que le ministre des Finances, qui est libéral, Christian Lindner, qui a été limogé par Olaf Scholz, le social-démocrate, que la coalition a éclaté.
Alors, il y a certainement beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la fin de la coalition allemande. Volmerus a dit que c'était la première coalition à trois. Je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes économiques en Allemagne. Le modèle économique allemand est remis en question par les choix qu'ils ont faits en matière d'énergie, la fin du nucléaire, la dépendance au gaz russe, des choix stratégiques avec une inféodation au parapluie américain et le retour de Donald Trump certainement les embête beaucoup, et qu'il n'y avait plus d'accord possible. Et que ces trois partis, les élections étaient prévues en septembre. Donc, on les avance de 7 mois, hein. C'est pas grand-chose. En revanche, en Europe, hormis la France, que, comme l'a dit Patrick Martin-Jeunier, est un modèle complètement à part, puisque nous avons un scrutin majoritaire à deux tours, et que nous étions le seul pays à l'avoir, puisque les Anglais en avaient un à un tour, mais qu'ils sont sortis de l'Union européenne, dans tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui, il y a une coalition. Dans tous les pays de l'Union européenne, il y a un accord de gouvernement, parce qu'aucun parti n'a la majorité à lui seul. En Italie, c'est un gouvernement à trois. Il y a Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Il y a Forza Italia, le parti qui est proche du PPE, qui est celui de Berlusconi. Et on a les affreux et les sales et les méchants de l'extrême droite de Salvini, qui sont aussi...
La Ligue.
La Ligue, voilà. Donc, on a bien l'extrême droite qui est au pouvoir en Italie. Voilà.
Oui, mais c'est une coalition de droite, d'extrême droite.
C'est une coalition de droite. Mais vous regardez dans tous les pays, il y a une coalition. Là, les Autrichiens ont voté il y a, 15, il y a un mois. Le parti d'extrême droite est arrivé en tête. Il n'empêche qu'il ne risque de pas être au pouvoir parce que la personnalité qui est celle du chef du parti est tout à fait clivante, ouais. Et que le président autrichien a demandé à celui qui est arrivé au numéro 2 de faire un contrat de coalition.
Mais quand vous dites qu'il est arrivé en tête, encore une fois, ça relance la question que je posais à Patrick Martin-Jeunier. Est-ce que ça ne crée pas une crise de la représentativité si la force politique qui est arrivée en tête n'est pas présente dans la coalition?
Alors oui, mais ça dépend, parce que dans une coalition, il faut bien s'entendre, une coalition, il faut trouver un terrain d'entente. Si le terrain d'entente du parti, si le parti qui est arrivé en tête dit « de toute façon, je vais tout mettre en l'air et je ne peux m'entendre avec personne parce que tout ce qui a été fait avant moi, c'est nul et je vais tout remettre en cause », il ne va pas pouvoir trouver un accord avec un quelconque parti. Donc, en effet, des électeurs ont voté pour ce parti. J'ajoute que il est arrivé en tête de un point, hein, donc c'est pas non plus un gap formidable en Autriche. Et donc, c'est pas antidémocratique. Il y a en effet la possibilité de s'entendre sur un gouvernement. Si le chef d'un parti dit je veux faire aucune alliance avec aucun des autres, ben forcément le président doit tenir compte un petit peu de ce qu'est ça. Vous avez un exemple qui s'est passé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a un an, on a eu un parti d'extrême droite, le Parti de la Liberté de Geert Wilders, qui est arrivé devant d'autres pays. Bon, il est arrivé à 20-25%, donc un quart de l'électorat. Ça ne suffisait pas pour être... Il a cherché à faire une coalition. Vous savez combien de temps on a mis ? Patrick Martin-Genier dit 2 mois. En Allemagne, c'est très rapide. 8 mois. Il est arrivé début juillet. Ça n'a pas empêché le Pays-Bas d'être géré, d'être gouverné pendant cette période. Il y a 4 partis. 4 partis aux Pays-Bas. Et il faut se mettre d'accord parce que c'est comme en Allemagne. Il faut comprendre que dans ces pays, le contrat de coalition, ce n'est pas top là, on se met d'accord sur un bout de table, dans un café, allez, voilà, on fait passer tel budget, tel truc. Tout est écrit. On appliquera tout le programme, mais rien que le programme. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, et Geert Wilders, le chef du parti, n'est pas devenu Premier ministre. On a trouvé une personne consensuelle, apolitique, qui permettait de faire travailler 4 partis ensemble.
Alors,
donc,
les coalitions
ouais. Chaque pays, un modèle.
Voilà. Est-ce que toutes les coalitions que vous avez citées, elles sont tenables ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, coalition égale court-termisme dans le jeu politique ?
On va voir. Les Allemands ont tenu quand même 3 ans et demi, hein, donc sur 4. Hein, donc c'est juste avant la fin qu'ils ont chuté. Les Italiens, ça fait quand même maintenant 2 ans que Mme Meloni est à la tête de cette coalition et visiblement l'attelage tient. Aux Pays-Bas, on va voir. Ils ont seulement 3 mois. Mais les coalitions sont la règle dans les pays de l'Union européenne, sauf rare exception. On pourrait parler de l'Espagne, par exemple, où en effet, c'est difficile de faire une coalition en Espagne, compte tenu d'un certain nombre de choses. Mais dans tous les pays européens, et le pompon du nombre de partis dans une coalition revient à la Belgique, à nos voisins d'Outre-Quiévrain, puisque compte tenu de l'État fédéral du collège, qui comprend à la fois une partie néerlandophone et francophone, il y a donc 2 ou 3 partis à chaque fois de ces partis territoriaux de la Belgique qui se mettent d'accord. Ils ont voté le 9 juin, ils n'ont toujours pas de gouvernement, il y avait 7 partis dans la coalition qui est sortante, et là il va probablement en avoir 5 ou 6. Et bien entendu, il y a non seulement l'unité géographique et puis le contenu, mais la Belgique est gouvernée aujourd'hui par un gouvernement avec 7 partis, et ça a tenu l'ensemble de la législature.
Et la Belgique a aussi eu le record du temps pour former une coalition.
C'était 500...
Plus de 500 jours,
ouais. Quasiment, il y a quelques années.
Patrick Martin-Genier, est-ce que vous aussi vous tirez un enseignement positif des coalitions en vigueur en Europe aujourd'hui ?
Écoutez, sans doute positif, mais il y a quand même un risque politique énorme parce que l'extrême droite, comme vous le dites, ne va pas gouverner avec un homme sulfureux comme Geert Wilders, mais il y a toujours une gouvernance avec un fauné, si j'ose dire. C'est que l'extrême droite est aux commandes quand même dans 8 pays environ, même si Geert Wilders n'est pas Premier ministre, même si en Suède, c'est pas quelqu'un d'extrême droite qui a été Premier ministre. Donc ces coalitions sont fragiles parce qu'elles sont sous l'influence de l'extrême droite dans ces pays, y compris en Italie. S'agissant de l'Allemagne, c'est la première fois qu'un chancelier fait éclater une coalition parce que, et vous avez vu dans quelles conditions il a limogé Christian Lindner, son ministre des Finances quand même. Il a fait preuve d'une autorité qu'on n'avait jamais connue avec Olaf Scholz, le chancelier. Il a dit ça suffit, il ne veut pas dépenser 1 euro de plus, nous on a besoin de faire des dépenses. Et donc, lorsque Mme Johanna dit tout à fait justement, il y a un contrat de gouvernement, on l'applique à la lettre, et bien c'est bien parce que l'un d'entre eux, le ministre des Finances FDP, a refusé d'appliquer ce programme, qu'il a été limogé. Donc les coalitions deviennent de plus en plus difficiles en Europe. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, eh bien, les gouvernements sont sous la pression de l'extrême droite. Et c'est bien de cela dont a peur le chancelier Scholz aujourd'hui, c'est qu'aux prochaines élections au Bundestag, l'AFD, l'extrême droite, devienne un parti encore plus important qu'il n'est aujourd'hui et qui sera en mesure de faire une pression, même si je ne pense pas qu'il arrivera au gouvernement, évidemment.
Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, que vous inspire justement le ton, pour rebondir sur ce que disait Patrick Martin-Genier, employé par Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour limoger son ministre des Finances ? Est-ce que c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé en Allemagne, encore une fois, chantre des coalitions politiques ? Et qu'est-ce que ça signifie sur sur la, comment dire, la vitalité politique aujourd'hui?
Alors, c'était une coalition, comme ça a été rappelé par Pascal Joannin, qui était compliquée dès le départ. Et effectivement, on pourra en parler pendant très longtemps, mais déjà dans cette coalition, le FDP, le Parti libéral, était un peu le trublion. Et son président, Christian Lindner, qui était ministre des Finances, s'était présenté comme ça. Il a dit « je serai le trublion libéral au sein de cette coalition ». Le ton qu'a utilisé Olaf Scholz, en parlant d'égoïsme, en parlant de manque de fidélité à la coalition, c'est en fait l'accumulation des tensions certes depuis 3 ans, mais surtout depuis 1 an, depuis que la Cour constitutionnelle fédérale a repris le budget allemand, où on a vu les tensions s'accumuler au sein de cette coalition. Je reviens sur ce qui a été dit. On a une tradition en Allemagne de construire une majorité en siège. On ne va pas parler de majorité en voix. Et il faut rappeler que quand Willy Brandt a été élu chancelier en 1969, il a été élu alors que le SPD était arrivé deuxième derrière la CDU. C'est juste qu'il s'était mis d'accord avec le FDP avant les élections, ce qui a permis de construire une coalition. Et c'est le cas dans la plupart des Länders qui ont été évoqués, la Thuringe, l'AfD, l'extrême droite arrive à plus de 30% et elle ne gouvernera pas et aucun parti ne veut gouverner avec elle, à tel point qu'aujourd'hui l'AfD, l'extrême droite, n'a aucun siège de vice-président au Bundestag. Donc il y a un vrai mur un mur pare-feu, comme on dit en allemand, vis-à-vis de l'extrême droite. Mais ça met les autres sous pression et ça conduit de plus en plus, on le voit à l'échelle fédérale, à des coalitions contre nature. On a vu des coalitions qui portaient des noms aussi pittoresques les uns que les autres dans les Länder de l'Est, entre la CDU, le SPD et les Verts, entre les libéraux, la CDU et le SPD. Aujourd'hui, avec le nouveau parti de gauche populiste de Sarah Wagenknecht qui pourrait s'allier avec le SPD dans le Brandebourg, avec la CDU en Saxe, parce qu'en fait, on va prendre tous les partis qui restent contre l'AFD. Et en fait, tout ceci perd un peu de son sens. On parlait des coalitions qui se montaient en 2 mois, je crois que le record c'était 1998, où en fait, le SPD et les Verts s'étaient mis d'accord avant les élections, ils gagnent les élections, ils montent leur coalition, ils rédigent leur contrat. De plus en plus, on ne sait pas quelle coalition va sortir après les élections, parce qu'on ne sait plus quelles sont les vraies alliances et on a des coalitions qui ne vont plus être des coalitions positives, mais des coalitions contre une force politique, ça a été noté, de plus en plus importante et une force politique de plus en plus bloquante au sein du système politique allemand. Parce qu'aujourd'hui, même si la CDU arrive à 33%, ce qui est à peu près le chiffre qu'on lui donne dans les sondages actuellement, on va dire c'est super, la CDU a gagné les élections, mais en 2017, 33%, c'était le chiffre avec lequel on disait que Merkel avait fait un très très mauvais score. Donc on est dans un autre système, et peut-être qu'il faudrait réfléchir à clarifier les coalitions, en tout cas en Allemagne, avant les élections, et ne pas se dire on prendra tous ceux qui restent face à l'extrême droite, puisqu'au bout d'un moment, eh bien, l'extrême droite pourra bloquer malgré tout, même si ceux qui restent sont toujours majoritaires.
Finalement, pour résumer votre propos, est-ce qu'on peut dire que, et finalement ça renvoie à ce qui est reproché à la politique aujourd'hui, est-ce que c'est l'opportunisme qui domine aujourd'hui ?
Alors, en Allemagne, ce n'est pas l'opportunisme. En Allemagne, il y a une vraie, ça a été souligné depuis le début de l'émission, il y a une vraie responsabilité et un sens du compromis. C'est-à-dire qu'il faut rappeler 2017. En 2017, la CDU, arrivée avec un score un peu faible en tête, avait entamé des négociations avec les libéraux et les verts pour former cette fameuse coalition qu'on appelle jamaïcaine, de la couleur des trois partis, donc noir pour la CDU, jaune pour les libéraux et vert pour les verts. Et cette coalition, les négociations de coalition avaient échoué dans le courant de l'automne, les élections avaient eu en septembre. Dans le courant de l'automne, les négociations échouent déjà parce que Christian Lindner était sorti des négociations. Et donc, on se disait, que va-t-on faire ? Il va falloir faire de nouvelles élections, etc. Et le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, avait tapé du poing sur la table. Il avait dit à son parti, le SPD, maintenant ça suffit, je sais que vous ne voulez plus faire de grande coalition avec Merkel, mais là il nous faut une solution, il faut de la stabilité, il faut un gouvernement en Allemagne. Et donc on avait réussi à avoir 6 mois après les élections, en mars 2018, un gouvernement, encore une fois, de grande coalition.
Mais c'est pour ça que l'opportunisme n'est pas toujours négatif. Hein,
l'opportunisme n'est pas nécessairement négatif. Et cette coalition, on l'a donnée perdante dès le premier jour et elle avait tenu jusqu'aux élections fédérales de septembre 2021.
Les coalitions politiques sont-elles encore possibles dans le monde? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, une semaine après l'éclatement de la coalition allemande, et alors qu'aujourd'hui, eh bien, le chancelier Olaf Scholz s'exprimait devant les députés du Bundestag. Mes trois invités, Paul Maurice, que l'on entendait, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales, Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, et Pascal Joinin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, à qui je vais donner la parole à présent, puisqu'on a bien compris que le grand enjeu, finalement, c'était cette montée de l'extrême droite qui menace aujourd'hui la vitalité, finalement, pour reprendre les mots de Patrick Martin-Jeunier. Les coalitions sont de plus en plus difficiles, a-t-il dit, de plus en plus fragiles. Mais comment on fait avec cette nouvelle donne, alors, pour maintenir ce système de coalition qui, comme vous l'avez dit, prévaut historiquement en Europe?
Il faut faire avec ceux qui sont volontaires, c'est une coalition des volontés, de ceux qui veulent faire avancer l'intérêt du pays une fois qu'on a gagné les élections. Puisque vous pouvez... Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, là, qui est celui de la Bulgarie. Nous avons un pays qui n'arrive pas à s'entendre et qui a fait 7 élections en 2 ans. À chaque fois, c'est les mêmes partis qui arrivent en tête. Comme ils ne peuvent pas s'entendre, ils ont essayé de faire un gouvernement qui a tenu 9 mois. Hein, et puis, on recommence, etc. Là, vous découragez les électeurs parce qu'ils vous disent... Je vous donne ça. Et donc, il faut s'entendre. Donc, une fois que les dés électoraux ont été jetés, il faut regarder qui peut faire une coalition avec, en effet, une coalition qui soit majoritaire. Voilà. Le problème de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'avant, il y avait 2 partis. Et le FDP, le Parti libéral, était un parti qui était un faiseur de roi, tantôt avec le SPD à gauche, tantôt avec la CDU. Aujourd'hui, s'il y avait des élections, je ne suis pas sûre que le parti de Christian Lindner obtiendrait des députés au Bundestag. Donc, s'il n'est pas présent la prochaine fois, eh bien, la coalition se fait avec ceux qui sont représentés. Donc, en effet, on a quand même un petit peu 2 partis dans tous les pays qui sont, un, l'extrême droite, avec des positions qui sont difficiles à tenir, voire l'extrême gauche. Paul Meurice parlait de Sarah Wagenknecht. Bon, Sarah Wagenknecht, quand on regarde un peu le programme, il faut voir d'où elle vient et où elle va. Parce qu'il y a quand même des choses qu'on fait aujourd'hui pour avouer des alliances avec elle, avec ce parti, ça va être très difficile.
Le danger quand même, c'est qu'il y a un fossé entre le résultat des élections et la coalition au pouvoir. C'est pas d'augure à renouer finalement le lien entre les politiques et la population.
Mais regardez, nous en France, on n'a pas de coalition, mais où est-ce qu'on en aurait trouvé une sur un programme électoral? On n'a pas cette habitude, donc on l'a pas fait.
Je rebondis parce qu'on n'a pas cette habitude, Patrick Martin. Jeunier l'a dit aussi, en France, il n'y a pas cette culture-là. Ces antagonismes, cette idée que compromis égale compromission, c'est uniquement français?
Ah, c'est complètement français. Moi, au Parlement européen, on va prendre un autre exemple qui est un Parlement supranational. Vous avez depuis l'origine, une coopération entre, on va dire, le centre droit et le centre gauche, PPE et CD, parce qu'il n'y a pas de majorité. Et donc, on a en effet pendant 30 ans eu, enfin 30 ans où il y a eu l'élection du Parlement au suffrage universel direct, de 79 à 2019, pendant 40 ans, on a eu une coalition à 2. Et bien maintenant, au Parlement européen, on a une coalition à 3. Alors, elle a été renouvelée cette fois-ci. Alors, en effet, on a une progression de l'extrême droite, mais elle ne se met pas d'accord. D'abord, ce n'est pas l'extrême droite, c'est les partis de droite radicale. Vous avez 3 groupes aujourd'hui. Vous avez les conservateurs, Mélanie et les Polonais. Vous avez les patriotes, Orban. Et puis, vous avez un 3e groupe souverainiste, l'AFD. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, comment voulez-vous qu'ils participent? Puisque si même eux-mêmes faisaient aujourd'hui gagner des élections, ils ne peuvent pas faire une majorité au Parlement européen parce que les 3 groupes, chacun a son laïus, son thème. Il y en a, Marine Le Pen trouve que Giorgia Meloni trouve que Marine Le Pen est trop à droite. Marine Le Pen a expulsé l'AFD de son groupe parlementaire avant les élections parce qu'elle trouvait que l'AFD était encore trop à droite. Donc, il n'y a pas de contre-majorité. Donc, il faut faire avec un bloc central qui peut-être se rétrécit parce que c'est vrai que ces partis traditionnels font moins. Et donc, comme il faut moins, il faut davantage de monde autour de la table. Et dans ces pays où on a la tradition d'une coalition, eh ben, on négocie jusqu'à ce qu'on soit bien d'accord pour que justement... le contrat de coalition mène ce gouvernement à son terme durant la législature et qu'il n'y ait pas d'accident.
Patrick Martin-Jeunier, on a l'impression qu'on est un peu dans un sauf qui peut pour former des coalitions aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le mode de scrutin pour qu'il y ait, encore une fois, le parti vainqueur soit davantage représenté?
qu'il y ait davantage de représentativité.
Ah ben, je crois que le système allemand est bien fait. Et d'ailleurs, régulièrement, le Parlement allemand négocie le nombre de parlementaires en fonction de l'évolution des électeurs. Vous savez, en Allemagne, on vote deux fois. L'électeur a deux voix. Il vote pour une personnalité et il vote pour une liste. Donc, c'est aussi. Oui, pour un parti. Et donc, c'est assez représentatif. Peut-être faudrait-il réformer le mode de scrutin parce que si vous descendez en dessous d'un certain seuil, eh bien, il y a des partis qui ne seront pas représentés. Mais si vous allez au-delà, eh bien, certains partis pourront avoir l'impression d'être floués. Là, vous avez totalement raison, c'est que face à la montée de certains partis politiques, notamment l'extrême droite, le risque est que les électeurs se sentent floués en cas d'élection d'extrême droite, qui se sentent exclus des coalitions. Mais en réalité, c'est un faux débat, parce qu'on voit bien aujourd'hui que même la gauche est en train d'être très très sensible aux questions d'extrême droite, et je pense notamment au contrôle de l'immigration et au droit d'asile. Regardez ce qui s'est passé ces derniers mois en Allemagne, où le chancelier Scholz a rétabli des contrôles aux frontières. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il a bien compris que s'il ne s'occupait pas de cette question essentielle de l'immigration illégale, il allait être également balayé aux prochaines élections.
Ça ne freine pas la montée de l'extrême droite jusque-là.
Voilà, non mais voilà, ça ne freine pas peut-être, ouais. Mais il veut montrer que même parce qu'on est de gauche, et vous parliez de Mme Wagenknecht qui est de la gauche populiste en Allemagne, effectivement, même la gauche est en train de prendre conscience qu'il faut traiter un certain nombre de difficultés, de problèmes liés à l'immigration, et c'est pour ça, même dans les pays nordiques, on prend en compte cette préoccupation, sans quoi, effectivement, la gauche sera encore plus balayée qu'elle ne l'est. Est-ce que ça doit passer par une réforme du mode de scrutin en France? On pourrait effectivement introduire la proportionnelle, mais regardez ce qui se passe par exemple en Israël, où eh bien, c'est pratiquement une proportionnelle intégrale, ce qui fait que ça peut conduire à une paralysie totale du Parlement. Il y a eu 4 élections, je crois, en l'espace de 2 ans. Donc, à un moment donné, pour stabiliser l'exécutif, il faut effectivement veiller au mode de scrutin.
Paul Maurice, si on se projette... Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir des coalitions en Europe ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, même si vous êtes spécialiste évidemment davantage de la France et de l'Allemagne, ou est-ce qu'aujourd'hui finalement l'idéologie prime trop et de plus en plus elle va primer selon vous, et avec elle l'idéologie politique j'entends, et donc avec elle aussi la montée des antagonismes?
Alors, juste un petit mot sur la question du mode du scrutin. Je rappelle que le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours a été introduit en France en 1958 pour justement éviter qu'on ait des majorités relatives et pour conduire à des majorités absolues. On a vu aux dernières élections que finalement, même ce type de scrutin-là, ne conduit pas à dégager une majorité claire puisqu'on a 3 grands blocs, on va dire, qui se dégagent au Parlement. Pour revenir sur l'Allemagne, un petit mot sur l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait qu'on peut construire
rapidement,
une coalition ?
Je veux bien que vous répondiez vite à la question parce que
Oui. C'est plutôt optimiste pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne a maintenu malgré tout les partis politiques. En fait, quand on fait une coalition, il faut qu'il y ait des partis politiques, et c'est ça qui ne fonctionne pas en France. On n'a pas de partis politiques, on n'a plus peut-être, au sens structuré, qui permet de négocier de parti à parti une coalition. Sur l'Allemagne, les coalitions, oui, elles vont perturber, parce qu'on a cette culture du compromis, ça fait partie de la culture politique, même si l'extrême droite va de plus en plus devenir un acteur incontournable de manière négative, pour le moment, mais c'est un acteur qui bloque le système.
Sur l'Allemagne et ailleurs également en Europe, Patrick Martin-Lonnier, l'avenir des coalitions, en quelques mots.
Oui, l'avenir des coalitions, je pense que c'est tout à fait encore véridique. Ouais. Il y aura des coalitions, mais elles seront soumises de plus en plus à une certaine pression. Et on voit bien qu'il y a des pays qui ont la culture des coalitions, d'autres qui ne l'ont pas. Et je crois que véritablement, il faut que nous atteignions un âge adulte de façon à développer cette culture du compromis et non pas de la compromission.
Et cette culture que finalement l'Europe quasi intégralement a, c'est ce que vous nous avez dit tous les trois, mais je retiens en tout cas que
il y aura de plus en plus de partis, parce que je pense, compte tenu de la baisse de certains partis, on parlait de la CDU qui va faire 30% ou 33%, qui est un bon score, mais par rapport à ce que faisait Angela Merkel moyen, ça veut dire que c'est de plus en plus difficile, parce qu'on voit dans tous les pays, au Parlement européen aussi, c'est qu'il faut au moins 3 partis, voire 4 maintenant, quand il y en avait 2, et donc forcément, plus il y a d'acteurs autour de la table, plus en effet, il faut discuter et composer, et ça prend un peu de temps.
Mais le tout,
c'est que ça soit solide.
Mais les coalitions sont encore possibles pour répondre
tout
à la question
fait.
Ce soir. Merci Pascal Jouannin, merci Patrick Martin-Jeunier, merci Paul Maurice pour ce débat du jour qui est à présent terminé. Florence Ponce à la préparation, Hélène Avril à la réalisation. Allez, coup d'œil à la pendule, bientôt 18h59. Bonsoir Alexis Guilleux.
Bonsoir Romain.
Afrique Soir.
soir dans 30 minutes. On jette un coup d'œil au programme ce soir.
Oui, on ira d'abord au Soudan. Cela fait aujourd'hui 7 mois que les paramilitaires des FSR assiègent la ville d'El Fasher, la seule ville du Darfour qui échappe encore à leur contrôle. La population, elle, a massivement fui vers le camp de déplacés de Zamzam. Au moins 6 morts aujourd'hui au Mozambique. Première journée de la nouvelle vague de contestation des résultats de la présidentielle du mois dernier. Contestation menée par Venancio Mondlane qui est arrivé en deuxième position de ce scrutin. Et puis le dossier d'Afrique Soir nous emmènera, Romain, en RDC pour la 10e édition du Forum des affaires Makutano.
A tout à l'heure avec Guilleux. Restez à l'écoute d'entre.